RCF. Benoît Paru, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maire de Châlons-en-Champagne. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF. Très bonne année à vous.
À vous de même et à tous les auditeurs.
Et ainsi qu'à l'ensemble du conseil municipal de Châlons-en-Champagne.
L'année, merci pour eux.
Une année marquée par de grands projets pour la ville, préfecture de la Marne, notamment la requalification de l'îlot Notre-Dame. Un gros chantier, on peut le dire, dont on voit le bout du tunnel, si je peux dire. Un vrai tournant pour le centre-ville, Benoît Paru.
Alors effectivement, le centre-ville est en travaux depuis maintenant de nombreuses années. Entre le réseau de chaleur, puis l'île Notre-Dame, on a effectivement mis le paquet en matière de travaux. Et ça a généré, bien évidemment, sur la vie quotidienne de ceux qui sont en transit, donc qui traversent le centre-ville, de ceux qui y travaillent, de ceux qui y vivent, et des commerces, bien évidemment, ça a mis le chantier, pour pas utiliser un terme plus négatif encore, que celui-là. Alors, on en voit quelque part le bout, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment sur la fin du chantier. Aujourd'hui, pour les voitures et pour les piétons, tout est installé.
Oui.
Donc aujourd'hui, pour un piéton ou pour une voiture, tout est terminé. Il n'y a plus d'embêtements liés aux travaux pour ceux qui sont en déplacement, on va dire, quelle que soit la forme du déplacement. Il nous reste à finaliser quoi ? Il nous reste à finaliser les plantations. Les grands arbres vont être plantés courant janvier et on aura terminé toutes les plantations au mois de mars. Ensuite, il nous reste les fontaines. Il y en a deux. Ces fontaines seront également terminées pour le mois de mars. Donc là, il y a les travaux qui sont en train de faire. Courant janvier, il va y avoir un certain nombre de travaux sur les fontaines. Et courant mars, on aura terminé les fontaines. Il reste comme principal chantier à terminer la coursive du musée oui. du cloître, puisque vous savez qu'on retourne l'entrée du musée du cloître pour le mettre côté Notre-Dame-en-Vaux. Et donc, cette coursive-là sera également achevée en mars. Donc, globalement, on aura à peu près terminé tout ce qu'il faut. On a quelques sujets et quelques incertitudes de date liées notamment aux intempéries. C'est-à-dire que quand vous devez couler une dalle de béton, par exemple, pour installer la statue Jean Talon, vous pouvez pas la couler en fonction de telle température, en fonction de l'eau, en fonction de plein de choses. Donc, il y a quelques petites incertitudes liées à ça, mais globalement.
On sera sur le courant printemps.
Non, c'est vraiment fin mars.
Fin mars.
On a le temps de finir fin mars. Et on réinstallera la statue Jean Talon plutôt en avril.
Qui sera rénovée.
Pour partie rénovée.
Oui.
On va la réinstaller en avril. En avril, parce que là aussi, en fonction de ce qu'on a vu avec l'artiste, avec les services, en fonction des températures, la fragilité pour le déplacement et la repose n'est pas la même. Donc ça va s'aménager un peu, mais ça se fera en avril.
Lorsqu'on parle de l'îlot Notre-Dame, Benoît Paru, on pense forcément à l'édifice religieux, la collégiale Notre-Dame-en-Vaux, classée à l'UNESCO. Un édifice qui a besoin d'être restauré. Benoît Paru, lors d'un conseil municipal, vous avez évoqué qu'une discussion pourrait être ouverte avec l'État. Qu'en est-il de cette possible restauration ?
Alors, quand on parle de Notre-Dame-en-Vaux, on parle d'une pépite que nous avons à Châlons et qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins dits de Compostelle. Si nous avons fait l'ensemble de ces travaux, dont on vient de détailler le calendrier, c'est pas juste pour se faire plaisir. C'est pour l'idée de remettre un écrin, d'avoir une place, entre guillemets, autour de cet îlot qui ne soit pas une gare routière. L'histoire de Châlons, c'est qu'on avait une gare routière devant un patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc l'idée était de sortir la gare routière pour donner un écrin, un paysage quelque part,
un
nouveau paysage, un nouvel espace urbain à l'église Notre-Dame-en-Vaux. C'est fait pour ça. Bon. Au passage, ça nous permet de faire plusieurs choses intéressantes. Un, d'avoir une circulation beaucoup plus apaisée pour redonner de la place et de la vie aux piétons. Ça nous permet de faire l'ensemble en PMR, donc l'accessibilité handicapée qui n'existait pas sur cette place-là, ou plutôt qui n'était pas sur l'ensemble.
Désormais,
c'est le cas. Donc ça, c'est un troisième, entre guillemets, usage. Mais l'usage principal, c'est de déménager la gare routière. Bon. L'État nous avait toujours dit, j'en viens à votre question, l'État nous avait toujours dit, nous, on ne paiera pas des travaux sur l'église en tant que telle, tant qu'on sera une gare routière, parce qu'elle va pas faire un ravalement avec des bus qui démarrent et passent tous les jours dans l'église et donc vont renoircir l'église 6 mois après avoir fait les travaux.
Donc problème réglé.
Donc
entre guillemets, la condition, sur la condition.
La condition préalable va être entre guillemets levée. C'est pas pour autant qu'on va le faire tout de suite. Et donc une fois qu'on aura fini tout ça, on va pouvoir discuter avec l'État pour voir si effectivement il y a un cofinancement possible d'une réhabilitation de l'église en tant que telle. Je mets beaucoup de conditionnels à tout ça, parce que ça va coûter beaucoup d'argent, que c'est pas prévu dans nos budgets dans les 5 ans qui viennent, et donc c'est pas quelque chose qui se fera tout de suite. Ça se fera d'ailleurs probablement par tranche. Ce qu'on voit souvent avec les très grandes églises, c'est qu'on fait pas tout d'un coup. On fait une façade, puis une autre façade, puis une autre façade, puis une autre façade, parce que sinon c'est beaucoup trop coûteux quand on fait tout d'un coup. Donc il y aura, on va lancer une campagne, on va en discuter avec l'État, mais c'est pas quelque chose qui se fera dans les 6 mois qui viennent.
Autre grand projet, Benoît Paru, c'est la zone Chanzy, la caserne inutilisée après le départ de l'armée. Un site qui est rené avec l'arrivée, il n'y a pas si longtemps, enfin, façon de parler, de l'INRAP. Des projets sont en discussion, avec notamment le tiers-lieu du Champagne Basket, le musée du cirque. À l'heure où on se parle, Benoît Paru, que peut-on dire de ces éventuels projets à Chanzy?
Pour l'instant, sur l'ensemble du quartier, qui est un quartier dit Chanzy-Forgeau, puisqu'il y avait deux casernements historiques, la partie Forgeau, c'est devenu deux zones pour faire ce qu'on appelle des terrains à bâtir. C'est-à-dire qu'on vend un terrain à quelqu'un qui veut construire sa propre maison. Bon. Donc il y a une première phase qui est terminée. Et il y a une deuxième phase qui est en cours de commercialisation pour faire ces maisons et que les gens construisent leurs maisons. Bon, ça, c'est sur la partie Forgeau. Sur la partie plus historique, plus patrimoniale, avec la grande place d'armes du quartier Chanzy, nous avons plusieurs installations. L'INRAP, vous l'avez cité, avec 70 collaborateurs, y sont installés. Rez-de-chaussée du bâtiment, quand on regarde la place d'armes, le bâtiment de droite, le rez-de-chaussée, c'est l'INRAP avec le bâtiment derrière qui sert d'atelier. Bon. Ensuite, sur les étages de ce bâtiment-là, les travaux sont terminés pour accueillir les agents de la DDFIP, Direction départementale des finances publiques. En fait, ce sont plutôt une direction nationale, puisque nous avons gagné une compétition qui avait été lancée par le ministère de délocalisation de services parisiens vers Chalon. Et donc là, on a une centaine de collaborateurs au total, dont 50 qui vont s'installer sur Chanzy. Nous avons gagné une deuxième compétition de ce genre-là auprès du ministère de l'Intérieur, avec l'Agence nationale des données du voyage. Donc ce sont des gens du ministère de l'Intérieur qui, en gros, contrôlent qui circule dans quel avion et comment sont payés les billets d'avion. C'est à peu près ça, le schéma. Ça, c'est 120 personnes. Donc, INRAP, 70. Finances publiques, 100, dont 50 à Chanzy. Et 120 à Chanzy de l'Agence nationale des données du voyage. Ce qui veut dire qu'en création d'emplois pour Chalon, l'INRAP, ils étaient déjà là, je ne les compte pas. Mais c'est 100 en finances publiques, 120 pour l'Agence nationale des données du voyage. Donc, c'est 220 emplois créés, dont 170 qui s'installent sur Chanzy. Bon. Et puis, sur Chanzy, sur un petit bâtiment, il y a également le centre de gestion de la fonction publique territoriale qui s'installe. C'est quoi ce centre? Pour les grandes communes comme Chalon, on a notre propre DRH qui assure les recrutements, la paye, etc., etc. Pour les toutes petites communes, qui ont 3 salariés, 2 salariés, un demi-salarié, ils n'ont évidemment pas de direction des ressources humaines. Et donc, il y a un service qui s'appelle le Centre de gestion de la fonction publique territoriale, qui en fait fait la DRH pour les petites communes. En gros, c'est ça. Bon. Mais ce centre-là, qui est déjà installé à Chalon, donc ce n'est pas une création d'emploi, va s'installer, se réinstaller sur Chanzy pour donc des petits bâtiments à côté, mais dans le quartier Chanzy, pour une quarantaine d'emplois. Bon. Ensuite, dans les projets restants, il y a 3 grands projets. Premier projet, le bâtiment central de Chanzy. Donc la grande bâtisse principale. Ce bâtiment-là, les travaux vont commencer probablement au mois d'avril, par ce qu'on appelle le curage des amiantages. Et dans ce bâtiment-là, on va installer la fusion des services de la ville et de l'agglomération. Aujourd'hui, la ville de Chalon a ses propres fonctionnaires. La communauté d'agglomération de Chalon a ses propres fonctionnaires. ils sont dans des bâtiments différents et ils sont sous une direction générale différente. On regroupe tout ça, c'est ce qu'on appelle l'administration unique, en ayant une seule administration qui fonctionne aussi bien pour l'agglomération que pour la ville. Ça va évidemment simplifier et rendre plus efficace la gestion de tout ça, parce que tout le monde sera, au lieu d'avoir deux services de la culture ou deux services du sport, un à la ville, un à l'agglo, bah on n'en aura qu'un qui gérera et la ville et l'agglo. Ça ne change pas évidemment les compétences. La ville garde son budget, la ville garde ses compétences.
Tout comme l'agglo.
Tout comme l'agglo. Mais on a, en prestation de service quelque part, pour réaliser l'ensemble de nos travaux ou pour gérer les sports, on aura une seule administration qui fera ça. Cette administration unique, on va, pour une grande partie des collaborateurs, pas pour tout le monde, les installer à Chanzy dans le bâtiment central. Donc les travaux commenceront en avril. On estime un déménagement entre septembre 2025 et janvier 2026.
D'accord.
À peu près là. Septembre 2025, c'est l'objectif qu'on s'est donné. Ça décalera peut-être d'un ou deux mois, mais c'est à peu près là.
En fonction de l'avancement des travaux.
Ça, c'est le bâtiment central. Ensuite, sur le troisième bâtiment de la place d'armes. Donc, j'ai dit le bâtiment de droite, INRAP, finance, intérieur. Le bâtiment central, ville, agglo. Le bâtiment de gauche, cette fois-ci, c'est le bâtiment pour le cirque. Vous l'avez évoqué. Là, on est dans une phase où on devrait lancer au printemps le concours d'architecture. L'idée est plutôt de raser le bâtiment pour construire un bâtiment contemporain.
Adapté.
Qui restera... L'idée, c'est peut-être jouer sur les architectures. D'avoir... On respecte la place d'armes. Donc, on sera bien toujours dans un univers de place d'armes. On ne mettra pas un bâtiment au milieu de la place. Donc, on va avoir un bâtiment qui aura peu ou prou une forme identique à celle d'aujourd'hui, pour respecter la structure de la place d'armes, pour respecter l'alignement d'arbres qui existe, mais sur un bâtiment qui sera plus contemporain, qui permet de jouer sur les architectures entre de l'architecture historique et de l'architecture contemporaine. Ça fera quelque chose d'intéressant de ce point de vue-là comme discussion architecturale. Et ce bâtiment-là, on espère lancer un concours d'architectes au printemps pour ensuite désigner probablement courant d'année 24, le lauréat, donc l'architecte qui nous proposera un projet, puis ensuite il y aura toute la phase des études avant de faire les travaux en tant que tel. Donc là, c'est quelque chose qui est un peu plus éloigné, évidemment, et qui va mettre, il y aura probablement 6 à 8 mois de concours, donc on va dire concours courant 24, les études, etc., courant 25, et travaux...
D'étudier les dossiers, voilà, les propositions.
Et puis ensuite, il y a... Une fois que vous avez un dessin architectural, il faut traduire ce dessin architectural en travaux. Ensuite, il faut lancer un concours pour désigner les entreprises qui font les travaux. Donc tout ça, on peut espérer que ça se fasse courant 25 et qu'on débute les travaux en 26. Voilà, c'est à peu près ça, les échéances. Enfin, on a dit trois éléments à régler. Le bâtiment central, le bâtiment de gauche, le tiers-lieu. Le tiers-lieu, physiquement, pour que les gens qui connaissent Chanzy se remémorent un peu les choses, il y a donc la place d'armes. Il y a, derrière le bâtiment de droite, un bâtiment, une espèce de halle utilisée par l'INRAP aujourd'hui. Il y a une deuxième halle qui est dans la poursuite de la première. Le tiers-lieu, c'est là qu'on voudrait le positionner. Un tiers-lieu, c'est quoi ? Parce que ça ne dit pas grand-chose à grand monde. Un tiers-lieu, c'est un bâtiment qui a finalement une multitude d'usages. Et qui n'est pas affecté à un seul usage. Ça veut dire quoi ? Quand vous prenez le bâtiment central, qu'on vient d'évoquer, il est exclusivement au service de l'administration, de la ville et de l'agglomération. L'étage de l'INRAP, c'est l'étage de l'INRAP. Et puis le bâtiment du cirque, c'est pour le cirque. Point. Un tiers-lieu, c'est un lieu ouvert à tous, sur lequel vous allez avoir une multitude d'activités. Vous pouvez avoir une association qui fait de la fabrication en 3D, un artisan qui s'installe, vous pouvez avoir une association qui s'installe pour avoir des activités culturelles ou sportives, vous pouvez avoir des ateliers, vous pouvez avoir des Fab Labs, vous pouvez avoir un espace de restauration, vous pouvez avoir des équipements sportifs.
Tout est possible.
Bref, c'est quelque part une forme de multi-usage et d'une gestion collective. Mais l'idée surtout, c'est que ce soit ouvert à l'extérieur. C'est-à-dire que n'importe qui, entre guillemets, peut y aller. Personne ne va, sauf un usager, au bâtiment de la mairie. Les circassiens, personne n'ira dans le bâtiment à part les gens du cirque.
Bien sûr.
Là, l'idée, c'est d'avoir un lieu beaucoup plus ouvert qui fasse quelque part vivre le quartier. L'idée, c'est comment on évite d'avoir un quartier qui soit un peu trop mort. Quand vous ne mettez que du logement, ou quand vous ne mettez que du bureau, les quartiers ont du mal à vivre. Donc il faut qu'on crée quelque part une forme de diversité des usages et des fonctions. Un peu de commerce, un peu d'activité, un peu de culture, un peu d'habitat, un peu de bureau, pour que l'ensemble arrive à vivre, mais à vivre la journée, le soir, le week-end. Donc voilà, donc c'est un peu l'objectif du tiers-lieu, d'animer tout ce nouveau quartier.
Est-ce que le Champagne Basket peut rentrer dans ce projet de tiers-lieu ?
Alors, nous avons lancé ce programme de tiers-lieu. Le Champagne Basket s'est effectivement proposé comme étant l'animateur potentiel de ce tiers-lieu, pour de son côté faire une salle d'entraînement.
D'accord.
Donc c'est une partie sportive que j'évoquais tout à l'heure, mais pour bien avoir tous les autres équipements qui sont ceux d'un tiers-lieu. En gros, ce qu'on a dit au Champagne Basket, attention, ça ne peut pas être un lieu que Champagne Basket, que pour l'entraînement de vos sportifs. On veut un lieu ouvert.
À d'autres activités.
À d'autres activités, bien sûr, mais surtout à ce que les spectateurs, enfin les ceux qui vivent dans le quartier, ceux qui vont travailler dans le quartier demain, aient accès à ce site-là. Donc ça ne peut pas être un accès fermé. Bon, donc ils ont accepté le principe. On est en cours de discussion avec eux. Nous allons lancer ce qu'on appelle un AMI, appel à manifestation d'intérêt. C'est un appel d'offres, en gros, pour le dire différemment, pour dire voilà, on a envie de faire un tiers-lieu sur ce site-là.
Qui a envie de se positionner ?
Voilà le bâtiment. Qui a envie de se positionner pour le gérer ? Peut-être que le Champagne Basket répondra, peut-être que d'autres répondront, on aura peut-être 1, 2, 3, 4, 5 dossiers, puis on examinera celui qui nous paraît le plus pertinent pour gérer cet espace-là.
Benoît Paru, maire de Châlons-Champagne, avec nous aujourd'hui dans les studios de RCF Cœur de Champagne. Merci encore une fois d'être avec nous. Alors, quittons, si vous le voulez bien, le site de Chanzy afin de nous intéresser cette fois-ci au quartier Rive-Gauche. On l'a évoqué en début de cette interview. Un quartier rénové déjà, avec de nouvelles infrastructures. On en a déjà parlé sur les ondes de RCF. Et qui va connaître cette année une avancée majeure concernant le réseau de chaleur que vous venez d'évoquer, Benoît Paru.
Alors, sur la Rive-Gauche, effectivement, il y a plusieurs grands projets. Le premier d'entre eux, vous venez de l'évoquer, c'est les réseaux de chaleur. On a terminé les réseaux de chaleur sur la rive droite. Ils fonctionnent. On va maintenant lancer les travaux sur la rive gauche. Alors, ce sera, j'essaie de rassurer tout le monde tout de suite, moins impactant que les travaux qu'on a eus rive droite et notamment en centre-ville. Mais on va le faire courant 24. Ça, c'est le premier point. Ensuite, nous avons sur la rive gauche toujours un dossier important qui est la fin des projets dits de rénovation urbaine, des quartiers dits en difficulté, sur ce qu'on appelle l'îlot des Corallines, qui est en gros l'entrée de la Bidée. On avait traité une partie de la Bidée, mais une partie n'avait pas été traitée. En gros, on avait traité, quand on rentre dans le quartier, à gauche de la rue du Nant, et pas à droite. C'est à peu près ça le schéma. Bon. Et donc, on a traiter la partie, en gros, qui est autour du CFA. Maintenant, on va traiter la partie qui est derrière le centre social, avec cette barre des Corallines qu'on va détruire. Et puis, l'idée principale, c'est de se dire comment on fait rentrer le parc qui existe, le parc Bellevue, dans le quartier. Le parc Bellevue, aujourd'hui, il est entre l'avenue Jeanne d'Arc et derrière le centre social. Petite entrée, grand parc, mais petite entrée, donc très peu visible, donc finalement assez peu utilisé. L'idée, c'est de le faire rentrer dans le quartier, et on va raser l'ancienne école du Nant, raser l'îlot des Corallines, donc la barre des Corallines, qui est vraiment la barre d'entrée du quartier, et faire arriver le parc jusqu'à cet endroit-là, pour qu'on ait en cœur de quartier un grand parc. Ça, c'est ce qu'on fera sur la rive gauche. Donc, ça ne va pas se faire demain matin, bien sûr, mais ça va commencer dès 24 par des premiers aménagements qu'on va faire, puisque l'école, on peut la raser assez vite. Donc on va commencer à aménager une espèce de place devant la médiathèque Gulliver pour qu'effectivement on commence ces travaux-là sur le quartier de la Bidée. Mais je n'oublie pas, et j'en profite, pour dire qu'on commence une opération d'ensemble un peu identique sur le quartier Schmitt, qui n'a fait l'objet jusqu'alors d'aucun travaux lourds de rénovation urbaine. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait, mais on n'a rien fait de très massif. Et donc, on commence ces travaux-là sur Schmitz, avec l'idée sur Schmitz, qui est un peu différente, mais finalement qui se rejoint, qui est de dire qu'il faut créer un espace central, un espace de vie. En fait, ce dont on s'aperçoit sur ces quartiers dits en difficulté, et qui rejoint un peu la discussion qu'on avait sur Chanzy, quand vous avez un quartier qui est ce qu'on appelle monofonctionnel, il n'y a que du logement, point. Il n'y a pas d'autres activités. Peu de services publics, peu de commerce, peu de bureaux. Vous n'avez pas de mélange de vie. Vous n'avez pas ce qu'on appelle le mixité des usages, pour reprendre des termes pseudo-scientifiques. Et donc, il faut qu'on remette un peu ces éléments de vie dans les quartiers. Et c'est un peu ce qu'on veut faire aussi sur Schmitz, où on veut recréer un vrai pôle commercial. Il y a besoin, parce qu'il n'y a plus de supérette. Donc, il faut qu'on crée un vrai pôle commercial. C'est vraiment le cœur du projet. Qu'on crée un vrai espace public accessible à tous en cœur de quartier. C'est le deuxième élément de ce projet-là. Et évidemment qu'on en profite aussi pour raser quelques immeubles qui sont trop vétustes, pour réhabiliter des logements qui sont nécessaires, pour que dans la vie quotidienne des gens, dans leur habitat quotidien, les choses s'améliorent aussi.
Et ça va démarrer en 2024.
Alors, ça a déjà démarré. On a fait l'école Lavoisier.
Oui.
On a fait le parc dit de Muscontus, qui est d'ores et déjà effectif et livré. Donc, on va continuer courant 24. Le sujet principal aujourd'hui, c'est le renouveau commercial du quartier. Pour l'instant, on a mis en place une situation temporaire. Pour ceux qui n'ont pas la capacité de faire leurs courses, on a fait, là encore, un appel à manifestation d'intérêt pour qu'il y ait des commerces qui se positionnent pour aller, grosso modo, au centre social, pouvoir faire prendre en ligne
oui.
les courses de ceux qui le souhaitent. On a fait avec Carrefour Contact, qui est installé dans le quartier, pas très loin, pour qu'évidemment, on puisse prendre des commandes pour ceux qui n'ont pas accès à Internet ou qui ne savent pas l'utiliser et faire les livraisons qui vont avec. Mais il faut évidemment qu'on ait une solution plus définitive avec un pôle commercial digne de ce nom dans le quartier. Ça va prendre quelques années.
Bien sûr.
Ça va se faire en quelques années, mais on espère commencer en 2024.
Avant de nous quitter, monsieur le maire, parlons de cette année olympique avec le passage de la flamme dans votre commune. On peut dire un moment fort, exceptionnel, que les Chalonnais auront la chance de vivre dans les prochains mois.
Alors, on l'espère que le moment sera fort, parce qu'on a la certitude, évidemment, que la flamme olympique passera. Elle passera, pour être précis, notez-le sur vos agendas d'ores et déjà le 30 juin 2024. Et cette même flamme pour les Jeux paro-olympiques passera le 26 août prochain, donc à Châlons. Et donc réservez tous évidemment votre place sur l'agenda pour ne pas rater ce moment fort de l'année olympique française qui passera donc à Châlons. Alors c'est le département qui organise tout ça. Et donc on aura évidemment tous les parcours, etc. en temps voulu. Mais oui, on est très heureux, très fiers d'avoir ces flammes olympiques qui passe sur Chalon.
Monsieur le maire Benoît Paru, merci beaucoup.
Merci à vous
d'avoir pris ces quelques minutes aujourd'hui sur RCF. On vous souhaite encore une fois de plus une très belle année et puis à très bientôt sur les ondes de RCF pour revenir sur ces grands projets du côté de Chalon Champagne. À très bientôt.
Merci à vous. Belle année également à toute l'équipe de RCF et puis belle année, j'allais dire surtout à vos auditeurs, en espérant que cette année leur apporte la joie, le bonheur, la santé, bref, tout ce qu'il faut pour être heureux.